Gracianopolis. Yvan Mazel,
Rémi Vigneron.
L'émission sur la métropole grenobloise.
Radio Campus Grenoble 90.8.
Bonjour à tous, bienvenue dans la sixième émission de Gracianopolis sur Campus Grenoble 90.8. Vous écoutez l'émission mensuelle d'information et de débat questionnant l'évolution de la métropole grenobloise. Aujourd'hui dans Gracianopolis, on va parler du quartier Beria-Saint-Bruno avec Pierre Belliri, enseignant et chercheur à l'école d'architecture de Grenoble. Nous sommes l'ensemble avec Rémi pour mener cette émission. Bonjour Rémi.
Bonjour Yvan.
Alors Rémi, de quoi parle-t-on lorsqu'on fait référence au quartier Beria-Saint-Bruno ?
Le quartier, connu sous le nom Beria-Saint-Bruno, Yvan, est situé au sud de la gare. Il est délimité par l'A480 et la zone de l'ancienne usine Bouchaillet-Vialet à l'ouest, l'estacade à l'est et les grands boulevards à son extrême sud. Il est composé de deux axes principaux autour desquels les activités d'antan et d'aujourd'hui s'organisent. Le cours Beria coupe le quartier d'est en ouest et connecte Grenoble et Fontaine. La rue Nicolas-Chaurier part du cours Jean Jaurès et trace une courbe vers le sud pour rejoindre la pointe sud-ouest au plus près de l'embranchement entre les grands boulevards et la 480. Aujourd'hui, le quartier Beria-Saint-Bruno occupe un territoire dépassant tout juste le kilomètre carré et compte quelque 20 000 habitants. Cette ancienne plaine marécageuse où s'écoulaient autrefois les méandres du Drac a hérité d'une riche histoire pour se forger une identité singulière. Historiquement, le quartier Beria-Saint-Bruno forme une extension naturelle de la ville-centre. Proche de la gare, le quartier s'avère être l'endroit idéal pour développer des activités industrielles en plein essor. Tannerie, chaudronnerie, ganterie, chocolaterie, brasserie sont autant d'exemples d'industries qui s'installent dans le quartier et dont les noms de leurs entrepreneurs, Alphonse Terret, Joseph Bouchaillet, Albert Raymond, vous rappellent sûrement des noms de rues ou de parcs. Beria-Saint-Bruno est donc dans un premier temps un faubourg industriel. Nous sommes en pleine révolution industrielle et les patrons d'alors pratiquent le paternalisme. Le tissu urbain du quartier que l'on connaît aujourd'hui se forme progressivement et naissent des cités ouvrières constituées de maisons individuelles ou de petits ensembles collectifs organisés autour de rues étroites. C'est aussi à cette époque que, sous la pression d'une classe ouvrière majoritairement croyante, française et d'origine italienne, l'église Saint-Bruno est construite. Dès lors, la place Saint-Bruno devient le cœur du quartier et on y trouve un marché hebdomadaire, des lavoirs, des bains-douches, des bals et des fêtes populaires régulières. Le début du XXe siècle est marqué par les deux guerres mondiales et le déclin de l'industrie. Le quartier est amené à changer radicalement. Les anciennes usines tombent à l'abandon et se transforment en friches. Les familles d'ouvriers les plus jeunes déménagent vers les zones plus dynamiques et laissent place à une nouvelle vague d'immigration, principalement venue d'Afrique du Nord. Au cours des 20 dernières années, une grande partie de ces friches industrielles sont transformées en logements et accueillent désormais une population plus cosmopolite qu'autrefois. Le quartier, principalement résidentiel, est de nouveau porté par un tissu économique et associatif dynamique. Le retour du tramway à la fin des années 80, couplé à la proximité historique de la gare, en fait un quartier privilégié pour les nombreux jeunes actifs du quartier Europol et de la presqu'île scientifique. Enfin, les nombreux parcs disséminés dans tout le quartier sont bénéfiques à une vie sociale plurielle. Alors qu'est-ce que Beria-Saint-Bruno aujourd'hui ? Le quartier est-il en proie à la gentrification, cet embourgeoisement des anciens quartiers populaires portés par la classe des créatifs, des ingénieurs et des chercheurs que dénonce le collectif Vivre à Beria ? Que faire des friches industrielles encore disponibles et comment maîtriser le foncier pour ne pas en faire un critère d'exclusion ? C'est toutes ces questions que nous aborderons au cours de cette émission consacrée, vous l'aurez compris, au quartier Beria-Saint-Bruno.
Le quartier Saint-Bruno, c'est avant d'être un quartier peuplé par beaucoup de maghrébins, c'était un quartier qui était d'abord peuplé par des Italiens, enfin un peuple ouvrier depuis longtemps. C'est un quartier qui a gardé cette culture ouvrière d'une certaine horizontalité qui fait que même avec la présence de d'autres communautés autres que ouvriers, des artistes, des classes moyennes, c'est un quartier où on trouve une forme d'horizontalité.
C'est le quartier où vous voyez toutes les origines qui se côtoient dans la bonne entente.
Okay. Il y a deux marchés, c'est le marché Saint-Bruno
Alors là, tu trouves de tout, sauf de bons légumes. Tu trouves des piles, de la laque, mais des légumes des Halles pas très bons, des peines, des ciseaux, des couteaux.
Je pense que c'est le marché de toutes les générations et de tous les âges et de tous les niveaux, au niveau revenu.
Et il y a le marché de l'estacade, qui est en fait un rendez-vous important des Grenoblois un peu in, que samedi, là, faire le marché de l'estacade, c'est important. Et là, tu trouves vraiment de bons légumes de producteurs et des fromagers, des laitiers. Et... Saint-Bruno, il y a des affiches tout le temps. Il y a des affiches sur toute forme de débat, sur toute forme de concert, mais c'est une ville, c'est un quartier qui débat. Et c'est bien, hein, c'est très très bien. Alors, je peux le dire différemment, c'est un quartier qui s'intéresse à son devenir. C'est un quartier où, en fait, où... Ah oui, les gens se sentent partie prenante de ce qui va arriver. Il y a à Saint-Bruno, il y a quelque chose qui pouvait y avoir à la Croix-Rousse il y a 20 ans, en fait. C'est que c'est un mélange de quartiers ouvriers populaires et un mélange d'artistes et un centre-ville assez agréable. Et en fait, là, il y a plein de petits lotissements, de petites maisons, de petites ruelles où, en fait, c'est le quartier attractif de la ville en ce moment. C'est le quartier où il faut être. Il y a un certain art de vivre grenoblois de Saint-Bruno.
On a le plaisir de recevoir aujourd'hui Pierre Belligri, enseignant à l'école d'architecture de Grenoble, architecte urbaniste exerçant son activité comme professionnel libéral, et également habitant du quartier Beria-Saint-Bruno. Bonjour Pierre.
Bonjour.
On a bien compris dans cette première partie l'histoire de Beria-Saint-Bruno, faubourg industriel. Quel en est aujourd'hui l'héritage architectural et urbain ?
Le quartier Saint-Bruno, ben ça commence à partir du cours Beria. Le cours Beria, au début du 19e siècle, c'est une grande route. C'est le départ de la route de Grenoble à Romans. Ça se construit petit à petit. Après, ça connaît une croissance particulière à partir du moment où la gare s'installe, à l'ouest des fortifications de Grenoble. Et de l'autre côté de la gare, Beria-Saint-Bruno, c'est un petit peu l'envers de la gare. De l'autre côté des voies ferrées, s'installe un nouveau quartier populaire avec beaucoup de manufactures, d'artisans, d'industries aussi, qui constitue une deuxième ville. On l'appelle la deuxième ville. En surface, d'ailleurs, à cette époque-là, elle couvre pratiquement la même surface que la ville de Grenoble. Donc c'est une ville populaire, industrieuse, active, avec toutes sortes de choses. Se forme autour d'un plan quadrillé à peu près régulier, à peu près, bon, qui va être suivi tant bien que mal, et avec une très grande diversité d'activités et puis de formes d'habitat, avec des maisons ouvrières, ce qu'on appelle des maisons en loyer, des immeubles collectifs avec des appartements en location, des maisons de maître aussi, des patrons habitent dans leur usine à cette époque-là.
Très bien. Alors on a actuellement deux types de mutations urbaines dans ce quartier. Alors, d'une part, des grandes opérations de transformation de friches industrielles et d'autre part, des aménagements ponctuels à l'échelle d'une maison, d'un bâtiment. Alors, on connaît la transformation des anciennes usines Bouchaillé-Vialet où se trouve maintenant le Centre d'art contemporain et la salle Belle Électrique récemment inaugurée. Quel est le processus de ces transformations de friches industrielles dans le cas de Bouchaillé-Vialet ou dans le cas, au sud du quartier, des usines Lustucru ou autour du parc Paul-Valérien Perrin?
Les mutations du quartier dans les 20-30 dernières années, ça fait une trentaine d'années que j'y habite et que je le connais bien du coup, elles ont surtout été discrètes, diffuses. Elles ne se produisent pas de façon spectaculaire. Beaucoup d'anciens entrepôts, activités, locaux artisanaux sont démolis, laissent place à des logements. Ça fait augmenter la population, le nombre de logements dans le quartier, mais sans qu'on s'en aperçoive vraiment. Alors plus récemment, c'est vrai qu'il y a eu des opérations plus importantes, la ZAC Bouchaillé-Vialet, la ZAC Lustucru. La question aujourd'hui du projet sur les terrains d'Albert Raymond, l'entreprise Raymond. Mais ça, ce sont des opérations relativement exceptionnelles par rapport à une transformation qui s'est faite de manière continue, discrète, beaucoup plus diffuse.
Ok, très bien. On écoute maintenant Zachary, habitant du quartier, qui va nous raconter son Beria-Saint-Bruno à travers la visite des lieux emblématiques du quartier.
Sur la place Saint-Bruno, il y a le bar où on était, le Capri. Il y a quand même trois bars, en fait, qui sont un peu des bars de sans-papiers. Il y a aussi le Saint-Arnaud. Le Saint-Arnaud, c'est aussi un monsieur d'origine algérienne. Et il y a aussi un autre bar, alors il faut le citer, c'est le Saint-Bruno, qui est de l'autre côté, qui est dans la diagonale complètement opposée au Saint-Arnaud. Et là, c'est un café qui est tenu par ceux qui éditent le Postillon. Et c'est le bar ouvrier, comme on pouvait l'avoir dans les années 60-70. Où... Il y a la mosquée, il y a l'église. C'est une école où en fait, si on fait une photo de classe, c'est divers et varié. C'est une gentille petite école avec des enfants de médecins et d'architectes et des enfants de femmes de ménage ou d'ouvriers. Il faut savoir qu'il y a trois tabacs sur le Courberia. On trouve des cigarettes à n'importe quel moment jusqu'à 21h, 22h. Enfin voilà, c'est un quartier où on trouve de tout. Des pâtisseries orientales, des fleurs, du jambon. On traverse souvent pour aller dans le nouveau quartier où il y a la salle noire, une salle de concert, on peut écouter de la musique classique le dimanche. Il y a aussi le musée d'art contemporain. Il y a une nouvelle salle que je n'ai pas encore visitée qui s'appelle La Belle Électrique et j'avais mon AMAP qui était là-bas et qui a été complètement refait. Alors il y a un mélange de récupération des anciens bâtiments et la création de nouveaux. Et honnêtement, je trouve ça pas mal quoi, pour l'instant. En tout cas, il y a de la vie là où il n'y en avait pas avant. Tu as quand même cette friche libertaire là qui est Cap Beria où il se passe des choses. Après, tu as beaucoup de choses ici. Il y a des jardins partagés qui se créent, il y a des épiceries solidaires, on peut réparer son vélo. Et si on est un couple avec un ou deux enfants, il y a des écoles bien mignonnes de quartier. C'est un quartier agréable. Et il y a une grosse population de gens qui veulent penser différemment leur consommation. Et en fait, il y a le marché bio, il y a la BioCop, qui est un lieu important de la vie sociale et communautaire de Saint-Bruno. Et il y a ce site-là qui est le plus vieux site autogéré de France, enfin... un des plus vieux. Et en fait, il y a une vie culturelle forte. En fait, c'est un truc anarchiste, mais il n'y a vraiment pas que les anarchistes qui y vont. Il y a une grosse tradition de solidarité. Il y a les Restos du Cœur. Il y a un lieu d'accueil pour les sans-abri un peu plus loin. Il y a des gens qui font une cantine aussi le midi. C'est une cantine à prix libre, gratuite, sur la place Saint-Bruno. On voit des Roms, des sans-abri et des gens du quartier venir manger à prix libre.
On vient donc de faire une visite du quartier avec quelques lieux emblématiques. On a, Pierre Bellieri, dans le quartier, des transformations urbaines diffuses et localisées, donc qui sont plutôt à l'échelle de la parcelle ou de l'immeuble. Quelles sont les caractéristiques de ces aménagements de petites opérations de logement ou de transformation de maisons ouvrières ?
Il y a eu un profond changement, et enfin en tout cas... une évolution de la population du quartier. Oui, le quartier, jusqu'aux années 1950-60, je pense, était dominé par des ouvriers. Des ouvriers, des classes populaires, des employés. En mélange, d'ailleurs, entre des propriétaires et des locataires, il y avait différents types d'habitats qui existent sur le quartier. Cette population a vieilli. Elle s'est aussi un petit peu déplacée avec la disparition de beaucoup d'activités. Et on a vu une population rajeunir. Une population un petit peu pionnière parfois aussi de jeunes, pas forcément avec beaucoup de moyens, mais qui ont trouvé là le meilleur rapport qualité-prix de la ville de Grenoble, par exemple, pour se réinstaller. Ça a produit beaucoup de changements de propriétaires, bien sûr, des opérations de renouvellement, de transformation de locaux artisanaux en habitations. On a pu observer des opérations de loft, par exemple, dans le quartier Beria-Saint-Bruno. Et puis des opérations de promoteurs aussi, mais souvent assez modestes, de taille relativement réduite. On avait aussi alors ça, du côté de la collectivité publique de la ville de Grenoble, on avait aussi quelques grands terrains qui ont été rachetés par la ville pour faire des jardins publics, qui manquaient beaucoup. Beria-Saint-Bruno, c'est un quartier dans lequel, à l'origine, il y a très peu d'espace public, à part la place Saint-Bruno. Donc petit à petit, on a vu apparaître des jardins publics dans d'anciennes propriétés, des maisons de maîtres souvent.
Très bien, on commence à se faire une image du quartier Beria-Saint-Bruno, pour ceux qui ne le connaîtraient pas. Après cette première partie de l'émission, nous allons maintenant faire une petite pause musicale.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes, little boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university, and they all got put in boxes, little boxes all the same. And there's doctors and there's lawyers and business executives, and they all get put in boxes and they all come out the same. And they all play on the golf course and drink their martini dry, and they all have pretty children, and the children go to school, and the children go to summer camp, and then to the university, and they all get put in boxes, and they all come out the same. And the boys go into business and marry and raise a family, and they all get put in boxes, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one, and they all made out of ticky-tacky and they all look just the same.
C'était Little Boxes de Pete Seeger, une ode à l'uniformité croissante de nos villes et de ses concitoyens.
Alors Beria-Saint-Bruno est un quartier animé, populaire. Les deux marchés de la place Saint-Bruno et de l'Estacade se déroulent tous les matins, sauf le lundi, et rythment la vie du quartier. Ils ont une influence et un attrait au-delà de l'échelle de la commune. Ils sont même influents à l'échelle de la métropole. Quelle a été leur évolution ces dernières décennies, Pierre Bénéris?
Oui, les marchés, c'est vrai, ils marquent fortement la vie du quartier. Ils montrent aussi d'ailleurs une résistance du quartier par rapport à l'uniformisation, à la normalisation précisément. Alors d'un côté, on a le marché Saint-Bruno qui est le non-alimentaire, on y trouve un petit peu de tout, pour pas cher. Et puis le quartier de l'Estacade qui est réservé à l'alimentaire. C'est le plus grand marché alimentaire de Grenoble. Du coup, ce sont des lieux très animés qui attirent des gens de bien plus loin que les limites du quartier, autour desquels, bien sûr, on trouve tous les phénomènes qu'il y a habituellement autour des marchés. Bon, effectivement, des SDF, des gens qui font la récupération, des nuisances, de l'inconfort parfois, de la vie, bon, tout ce qui va avec la vie quand même, tout simplement. Ce sont des marchés qui évoluent. Alors, les commerçants, ils disent toujours que ça va mal, bien sûr. Pour autant, c'est des marchés qui fonctionnent bien, qui fonctionnent quand même encore, qui fonctionnent bien. On peut observer un risque de communautarisation, effectivement, autour des marchés, pas des marchés eux-mêmes, mais autour de ces marchés, avec un inconfort pour certaines personnes. Notamment, c'est vrai qu'autour de la place Saint-Bruno, c'est plus difficile qu'il y a quelques années pour les femmes, par exemple.
Alors, il y a eu ces dernières années des différents projets de réaménagement de la place et du square. Quels seraient les enjeux de la transformation de cet espace public au cœur du quartier, et comment conserver ce marché dynamique et favoriser l'usage du square? Faut-il conserver le parking? Quels sont les enjeux?
Est-ce qu'un espace de marché peut être propre, convenable, clean, etc.? Certains en rêveraient, mais je pense que c'est un rêve. Un marché, par définition, c'est un espace qui produit des nuisances, qui nécessite un aménagement très sommaire, rustique, résistant, polyvalent aussi. Et du coup, c'est difficile d'imaginer qu'un marché devienne un espace public propre, propret, etc., comme certains le souhaiteraient. Lorsqu'il n'y a pas de marché, la place Saint-Bruno est occupée par un parking. Ce parking joue un rôle important dans l'accès au commerce du centre-ville. Donc beaucoup de gens laissent leur voiture gratuitement, d'ailleurs, en dehors des horaires du marché, pour aller dans le centre-ville. Et du coup, c'est aussi une condition de fonctionnement de l'hypercentre-ville grenoblois. C'est difficile, du coup, d'imaginer de supprimer le parking et d'arriver à faire un aménagement très permanent, propre, clean à cet endroit-là. Parallèlement, il y a quand même le Square Saint-Bruno qui, lui, fonctionne bien comme jardin public, comme espace de jeu pour les enfants, par exemple.
On va maintenant écouter Bruno de Lescure, président de l'Union de quartier Beria Saint-Bruno Europol, qui nous parle des transformations urbaines à l'œuvre dans le quartier. Il nous donne son avis sur la gentrification et l'aménagement de cette place.
Beria, c'est pour ça que la gentrification est quand même un sujet du quartier, vraiment. Mmh. Beria est un des quartiers où on a le plus construit. J'ai rien contre la densification et la construction, ça ne me dérange pas outre mesure. À condition que ça soit fait à peu près dans les proportions correctes, en fait. Et pas avec comme seul leitmotiv de construire énormément de logements privés pour faire du logement social. Ça, je trouve ça absolument délirant, ça n'a aucun sens. Il n'y a qu'à construire le logement social tout court, et puis c'est pas peine de se prendre le chou sans 7 ans. Le terme, qui est le terme à la mode en plus, on peut l'appeler comme on veut, qui est le terme de gentrification du quartier, c'est le thème principal de tout ce qui est là, en fait,
fondamentalement. Donc contre la gentrification ?
Oui, en clair, oui, clairement. Ah, les bourgeois, c'est 16P+, je veux dire, c'est pas la peine de chercher midi à 14h. Quand on commence à vendre en fait, des appartements à 4000 euros du mètre carré, ou même 3500.
C'est devenu le prix.
Alors le prix dans l'ancien, c'est 2005-2006. Donc là, dans l'ancien, ça reste à peu près, on va dire, et encore, c'est quand même énorme. Donc c'est ça le problème, c'est ça. C'est que c'est qu'on change la population progressivement, tout simplement. À l'échelle de Grenoble, c'est clair. Hein, il y a un doublement des 16P+ en 10 ans. À population constante. Mmh. Et CSP+ passe de 5 à 10% entre 99 et 2010. C'est un des rares quartiers où vous avez des mecs qui sont en hôpital de jour et compagnie, et qui sont là, quoi. Et qui peuvent être là. C'est-à-dire que cette place, tout le monde la trouve pourrie et compagnie. Moi, je trouve que c'est un rare lieu public où, en fait, il y a beaucoup de gens qui se côtoient de nature très différente. Le jour où on commencera à la refaire, c'est-à-dire comme une place de centre-ville, eh ben, il y aura toute une série de personnes qui n'ont plus le droit de citer clairement cet endroit-là. Effectivement, il y a du deal et des choses comme ça, parce qu'il y a des tas de gens qui veulent une ville propre, c'est tout, point. Je pense que le marché est un élément très important en fait, de la place, et que tout ce qui conduirait à le réduire le détruirait à terme. Donc en fait, le problème, et il y a un gros problème de place, en fait, à cause de ce que tout le monde, les camions et compagnie. Mais je pense qu'il y a moyen d'améliorer ça. Voilà. Mais si la perspective, c'est réduire le nombre de forains pour, enfin, en gros, virer ceux dont on considère que c'est l'équivalent de tatou pas cher, c'est pas du tout ma perspective. Il y avait l'opération à Mistral, c'est-à-dire qu'ils prenaient, en fait, le Greta, fouf, et là-dessus, ils plantaient, sans logement. Dans leur tête, c'était comme ça. Vincent, j'exagère un peu moins, 70. Et là, il y avait un espèce de micro-lieu avec la crèche, avec etc. Donc, à partir du moment où on disait promoteur, donc c'était on peut dormir et puis point barre. Quoi. On n'a pas d'autre fonction et forcément, on doit aller au Grand Boulevard si on veut faire quelque chose, ou alors on va à la place Saint-Bruno. Depuis 2005, le PLU, c'est là qu'a été institué le fait d'aller construire 20 ou 30% de logements sociaux par opération immobilière. En gros, c'est la délégation du logement social au privé pour ce qui est de sa construction et de son projet. Et ensuite, nous, puissance publique, on va les racheter derrière. Comment ils les ont payés ? Par le foncier, en étendant la constructibilité. Et là-dedans était le prix, en fait, du service qu'elle rendait à la collectivité. Sauf que c'est un prix totalement abusif.
Alors, après cet entretien du président de l'Union de quartier, qu'est-ce que la gentrification et quels sont les facteurs qui ont favorisé ce renouvellement de population dans le quartier Beria Saint-Bruno ?
Gentrification, bon, c'est un terme un petit peu à la mode, peut-être qu'il veut dire simplement bourgeoisement, hein, pour reprendre des termes plus traditionnels, plus anciens. On peut considérer d'ailleurs que j'en suis moi-même un acteur. Hein. J'ai eu l'occasion d'acheter une maison dans le quartier Saint-Bruno, j'ai ce privilège-là. Alors ce privilège, c'est le résultat aussi d'un rapport qualité-prix exceptionnel. C'est vrai qu'il y a une trentaine d'années, même encore une quinzaine d'années, on pouvait arriver à trouver des locaux, des habitations pas très chères. Et du coup, ça a attiré effectivement ce qu'on appelle la petite et moyenne bourgeoisie intellectuelle, des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, mais qui sont assez intelligents pour trouver les bonnes occasions, les bonnes opportunités. Alors les premiers qui profitent de ces bonnes occasions, quand il y a des grands espaces pour presque rien, ça a été notamment des squats, ça a été les artistes qui sont dans ce domaine-là des pionniers, des l'avant-garde parfois de la gentrification à leur corps défendant. Après viennent effectivement des gens qui ont un petit peu plus des moyens et petit à petit, effectivement, ça fait monter les prix du foncier et de l'immobilier. Alors ces prix aujourd'hui restent assez attractifs, dans l'ancien en particulier. En revanche, c'est vrai que les prix du neuf aujourd'hui dans le centre-ville ont augmenté de manière très, très significative et qui sont difficilement accessibles à une grande partie de la population. Augmentation de la population, le quartier Saint-Bruno résiste encore à cet embourgeoisement. Il y a encore beaucoup de mixité, beaucoup de mélange de populations diverses, mais c'est une tendance contre laquelle il est difficile de résister.
Et pour s'adapter donc à l'augmentation de cette population, quels sont les équipements, les aménagements qui sont nécessaires dans le quartier ?
Il y a quand même eu une grosse augmentation de logements ces 20 dernières années, sans pour autant que les équipements publics aient été renouvelés ou développés. On observe aujourd'hui un déficit significatif de places d'accueil dans les crèches ou dans les écoles, tout simplement. Donc il faut arriver à consolider, conforter, renforcer les équipements publics de proximité dans ce quartier. Il y a un retard qui s'est un petit peu accumulé dans ce domaine-là.
Et les nouvelles activités du quartier, quelles sont-elles aujourd'hui ?
Berrières-Saint-Bruno, c'était depuis longtemps une pépinière. Justement, là encore, où des activités débutantes qui démarraient trouvaient des locaux pas trop chers pour commencer. Ça a même été organisé par la municipalité à une certaine époque. Là, les locaux de l'ancienne chocolatrice et moi, par exemple, sont devenus une pépinière d'entreprise. Elles le sont encore aujourd'hui. C'est diffus, c'est dispersé dans tout le quartier. Là encore, les prix des loyers, y compris des locaux d'activité, a tendance à augmenter. Il faudrait pourtant que cette vocation un peu de renouvellement et de pépinière, d'implantation de nouvelles activités, d'innovation également, reste dans le quartier.
Nous avons bien compris le rôle du quartier Berrières-Saint-Bruno dans l'agglomération de Grenoble. Donc, comme à notre habitude, Pierre Bellieri, on va vous poser la dernière question que l'on pose à chacun de nos invités ici dans les studios de Radio Campus. Qu'est-ce qu'est pour vous la métropole grenobloise ? Vaste question.
Vaste question. C'est un gros mot parfois, la métropole. Grenoble, c'est une grande petite ville, une petite grande ville. Métropole, c'est presque un peu prétentieux. Bon, on réserve ça en général à des agglomérations d'une taille beaucoup plus importante. Après, c'est une agglomération avec une taille assez vivable, qui est intéressante, qui a beaucoup de ressources, qui a aussi certaines fragilités. Elle vit sur l'idée de l'innovation. Et l'innovation, la modernité, c'est délicat. C'est un peu comme un oiseau. On court toujours après. Plus on s'en approche, plus il s'éloigne. Et du coup, voilà, c'est la fuite en avant. C'est pas facile de courir après cette vocation d'innovation et de modernité.
Ce sixième numéro de Gracianopolis touche maintenant à sa fin. On souhaite remercier toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de cette émission consacrée au quartier Berrières-Saint-Bruno. Donc merci à vous, Pierre Bellieri, d'avoir accepté notre invitation pour enregistrer ici dans les studios de Radio Campus Grenoble. Merci également à Bruno de Lescure et Zachary Bérémili pour les entretiens et les visites qu'ils nous ont accordés et qu'on effectue avec eux. Merci à Anthony et à Rémi à la technique de l'autre côté de la vitre aujourd'hui. Pour notre part, on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission de Gracianopolis. Vous pouvez nous retrouver, comme toujours, sur notre audioblog, mixcloud.com/Gracianopolis et sur Facebook. Merci de nous avoir suivis et à bientôt sur Campus Grenoble 90.8.